Là, ça serait utile pour vous d'avoir une Bible pour pouvoir lire Hébreux chapitre 2 où nous serons aujourd'hui. Donc, si vous avez une Bible, cela va nous aider parce que j'aurai quand même quelques questions à vous poser aussi pour comprendre ce que vous voyez dans ce texte. Nous sommes aux Hébreux chapitre 2, les versets 5 à 18 aujourd'hui. Nous avons vu dans le passage que Justin nous a expliqué la semaine passée, au chapitre 1, le verset 5 et jusqu'au chapitre 2, le verset 4, nous avons vu que Jésus est au-dessus de tous les anges et que il est le Fils, donc il est le Fils que Dieu envoie sur terre, il est le Fils qui est glorifié et c'est celui qui amène, qui nous donne le salut. Et donc ce Fils qui est le rayonnement de la gloire, qui est l'empreinte de Dieu lui-même, ce Fils qui manifeste qui est Dieu, c'est essentiel à comprendre parce que nous avons vraiment des passages à méditer. À tel point qu'en regardant les chants que nous avons, je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit l'un des paroles de nos chants que nous avons. C'est le numéro 65, si vous regardez dans vos livres de chants. Il dit ceci, il dit, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ mort pour nous. Alors, ça va, ça on comprend, Jésus qui est mort pour nous, mais écoutez ce qu'il dit par la suite. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. D'accord, ça parle d'une conviction. Mais après, il écrit ceci, troisième strophe. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus bon nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Jésus, donc, quel bon nom porte loin de l'Éternel. Et donc, les anges ont des noms, Michel, Gabriel et tout, mais le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Et puis, après, il dit au verset 4, et ça c'est important pour aujourd'hui, au strophe 4, il dit, dans les maux, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Et donc, nous voyons qu'il y a cette souffrance qui est là et nous pouvons nous tourner vers Jésus. Nous ne nous tournons pas vers un ange, nous ne nous tournons pas vers un homme, nous tournons vers Jésus qui est supérieur à tous les êtres célestes et qui maintenant est assis à la droite de Dieu. Mais la question persiste. Si Jésus est au-dessus de toutes choses, à qui ce monde-ci dans lequel nous vivons aujourd'hui est-il soumis? Cette semaine, les grands de ce monde vont se trouver où? Bon, ils vont se trouver dans notre beau pays, à Davos. Et les grands de ce monde vont se mettre ensemble au niveau politique, au niveau économique, et ils vont parler de l'avenir de notre monde et comment faire de notre monde un meilleur endroit. Et c'est certainement quelque chose qu'ils font de bonne volonté et avec de bonnes intentions. Mais vous savez que ces hommes et ces femmes ne sont pas ceux qui dirigent notre monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement américain a ce qu'on appelle les rideaux fermés cette semaine. Et à cause de cela, en lisant le journal ce matin, il disait que peut-être Donald Trump ne pourra pas venir ici en Suisse parce qu'il y a les rideaux fermés. Rideau fermé au niveau du gouvernement et au niveau de l'argent là-bas. Donc, vous vous rendez compte que le puissant de ce monde peut ne pas venir parce qu'il n'a pas assez de sous pour se payer, même s'il est milliardaire. Donc, vous voyez, on pense parfois que ces personnes sont ceux qui dominent notre monde, mais ce n'est pas le cas. D'autres personnes disent que ceux qui dominent dans notre monde et ce qui dirige notre monde, ce sont des lois de science, des lois de la physique, l'entropie, etc. Et que finalement, les lois physiques vont nous amener notre univers vers une destruction totale. Ou les êtres humains les plus puissants, que leur argent, influence et méchanceté mènent ce monde à la désolation. ou aux gouvernements qui manipulent ce monde par des systèmes économiques, des politiques corrompues, qui corrompent ce monde et qui abusent les petits de ce monde. Ou des gens peuvent dire, c'est Satan qui règne avec ses anges, qui gouverne notre monde tout en attendant le retour glorieux de Jésus. Bon, il est important pour nous de comprendre que ces visions du monde ne sont pas les visions justes qui sont données dans la lettre aux Hébreux. Il est très important que pour nous de comprendre ce qui se passe. Notre vision doit être claire, car notre manière de voir les choses influence et forme notre foi. Et voilà la question que nous avons ici. Nous avons ces chrétiens auxquels cette lettre est écrite, qui sont des gens qui subissent un traitement qui est injuste. Ils sont en train d'être donc persécutés. Et chapitre 10, le verset 34 dit, En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Donc les gens viennent et étant persécutés, les chrétiens y perdent leurs biens. On les vole. Et puis, au chapitre 12, nous apprenons qu'ils sont persécutés, mais pas jusqu'à la mort. Il dit, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Mais ils sont quand même persécutés. Et il semble que juste sur l'horizon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une persécution à mort de certains chrétiens. Et la question qu'il pose, c'est que qui est-ce qui règne? Et notre texte parle directement de cela. Il a déjà dit au chapitre 1, les versets 1 à 4. Il a déjà dit au chapitre 1, les versets 5 et suivants. Mais maintenant, il va répéter cela et il veut que nous méditions cela. Alors voilà, je vais prendre le texte, je vais le lire. Et juste en le lisant, vous allez voir la richesse de ce texte et combien on a besoin de prendre du temps dans la prière pour méditer sur le texte. Chapitre 2, le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je placerai ma confiance en lui. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé. Afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tenté. Voilà, c'est le discours qu'il a. Et j'aimerais juste, en prenant le texte, donc je vous invite à faire cela, je vais juste mettre ici, donc, j'avais mis ici des nouveaux, des neufs. Je vais juste mettre sur notre tableau, donc je mets le nom de Jésus. Et j'aimerais juste qu'on trouve dans notre texte les manières dont on parle de lui. Comment est-ce qu'on le décrit? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Quelles sont les choses qui reviennent, qui viennent à votre esprit en lisant les textes? Jésus est décrit comment dans notre texte? Allez-y.
Couronné de gloire et d'honneur.
Donc, couronné de gloire et rempli donc de honneur. Bien, quoi d'autre?
Dieu d'amour.
Oui, pardon?
Dieu d'amour.
On voit qu'il y a l'amour qui l'anime, et dans notre texte, mais on voit quoi?
Il est le maître.
Bien, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous voyons? Comment décrire Jésus dans ce texte?
Auteur du salut.
Il est auteur du salut. Quoi d'autre?
Il a tout sous ses pieds.
Tout sous ses pieds. Que remarquez-vous d'autre? Donc, il y a tout ce qui est pardon, purification. Que dit-il d'autre, l'auteur, concernant Jésus? Oui, s'il vous plaît.
Il est celui par qui et pour qui tout existe.
Ok, dans celui avant, il dit cela dans le texte avant. Oui, là il parle de Dieu, je crois. C'est celui qui a tout créé et par qui tout existe, qui l'a fait. D'accord. Quoi d'autre? Ne soyez pas timide, allez-y. D'accord. Donc, il est victorieux sur la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait à Satan? Au diable? Il a écrasé Satan. Pour libérer, n'est-ce pas? Ceux qui ont peur de la mort. D'accord? Pour libérer. Encore? Il est un grand prêtre. C'est juste à la fin. Okay. Et comme un grand prêtre, que fait-il?
Il a expié le péché.
Oui. Expiation. Donc, expiation, c'est le mot pour miséricorde. Il donne miséricorde aux hommes. Voyez-vous une autre chose? Bon, là, on a que gratté la surface de notre passage. On pourrait passer encore 5 minutes à lire chaque verset et de ressortir les merveilles que cet écrivain, quand il regarde Jésus, il contemple Jésus, les choses qu'il voit. Et c'est quelque chose que, de nouveau, comme je vous ai dit pour chapitre 1, que je vous encourage à faire, c'est de reprendre ces deux chapitres et de les prier en méditant sur Jésus. J'aimerais juste vous parler de certaines choses que je vois dans ce texte, et ce sont des choses que je crois que l'écrivain a voulu montrer à l'Église. Première chose que nous voyons, c'est qu'il parle de l'incarnation. L'incarnation. Jésus, donc, est celui qui, pendant un peu de temps, est fait inférieur aux anges. Et c'est une citation de Psaume chapitre 8 qui parle de l'importance de l'homme dans la création. Quand il parle de la grandeur de la création, mais il dit que l'homme a été créé, donc il était créé juste inférieur aux anges. Et ici, il dit que Jésus est celui qui est le centre de toute la création. Il est celui qui, pendant un moment, est fait pour vivre sur notre terre inférieur aux hommes en prenant la condition de chacun de nous. Au verset 17, il dit qu'il est devenu en tout semblable à ses frères. Et donc, il faut savoir que comme nous souffrons, Jésus a souffert. Comme Jésus, nous sommes tentés, Jésus a été tenté. Quand Jésus a dû obéir, nous devons obéir, Jésus a dû obéir. Et le verset 18 donc dit, « Il fut tenté comme nous ». Et ce passage est très clair, parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Que Dieu lui-même, comme nous lisons dans les Écritures, vient un être humain en Jésus-Christ. Et l'incarnation veut dire, dans toute sa plénitude, non seulement de faire face à la tentation, et non seulement de faire face à la souffrance, mais aussi de faire face à la mort. On ne peut pas être totalement incarné, on ne peut pas être totalement homme si on ne fait pas face à la mort. Et ceci que nous voyons que Jésus était totalement un homme. Et voici pourquoi, pendant des siècles, les hommes, quand ils ont contemplé Jésus de l'Évangile, ils ont compris qu'il était, non seulement il était Dieu, mais il était aussi celui qui est totalement homme. Et nous remarquons non seulement son incarnation, mais vous voyez son humiliation. Son humiliation. Il dit au verset 9 qu'il a goûté la mort pour tous. Et cette phrase qu'il goûte, ça veut dire qu'il est proche de cela. C'est quelque chose qu'il y a une relation, comme nous avons dans le psaume qui dit « Goûtez combien le Seigneur est bon ». L'idée, c'est de vivre en relation avec le Seigneur. Ici, c'est Jésus qui vivait avec cette relation de la mort. Il savait que cette mort venait et il était prêt à l'accepter. Intimement, il le connaissait. Intimement, il l'a vécu. Et c'est pour cela que nous voyons sa force d'aller jusqu'au bout de cela. Nous voyons la souffrance aussi dans ce texte. Et il dit plusieurs fois que la souffrance a mené après à la gloire. Que c'est d'abord la souffrance, après la gloire. Nous voyons aussi qu'il dit qu'il est passé par la tentation et qu'il a résisté à la tentation pour arriver à la perfection. Au bout du plan de Dieu que Dieu avait fixé pour lui, en passant par la souffrance. Alors, notons bien que plusieurs fois, nous allons voir dans les Hébreux qui dit que Jésus est devenu parfait dans son obéissance. Okay? Comme s'il était imparfait avant et donc il devait obéir pour devenir parfait. Mais ce n'est pas cela que le texte veut dire. Le texte parle spécifiquement qu'à travers son obéissance et sa résistance à la tentation, il va aller au bout final du plan que Dieu a préparé pour lui. Et il sera dans la perfection pour cela. Il va arriver à accomplir parfaitement le plan. Jésus n'a pas dû être purifié, mais c'est plutôt qu'il accomplit le plan de Dieu parfaitement. Et son obéissance à travers la souffrance, la tentation par exemple au début de son ministère, la tentation qu'il a sans doute vécue dans le jardin de Gethsémani, montre qu'il était parfait dans le respect de Dieu. Et sans cette souffrance, on n'aurait jamais su quel était le plan de Dieu. Et puis le verset 18, c'est que puisqu'il est passé par la souffrance et puisqu'il est passé par la tentation, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Et donc, quand l'écrivain regarde Jésus, il est soulagé dans sa souffrance et il est soulagé dans sa tentation parce qu'il sait que Jésus est passé par là. Et ça lui donne donc un grand soulagement. Donc, il y a incarnation, il y a humiliation et il y a glorification. Et une des choses que vous pouvez faire une fois, c'est juste lire les Hébreux et chaque fois que vous tombez sur cette glorification de Jésus, c'est de marquer quelque part. Et vous allez trouver page après page après page, ce qui importe pour l'écrivain aux Hébreux, c'est que Jésus est celui qui règne maintenant. Nous voyons qu'il dit « le monde à venir a été soumis à lui ». Et quand on parle du monde à venir, il n'est pas en train de parler de ce cité permanente est mentionnée dans chapitre 13, le verset 14. Il n'est pas en train de parler d'une habitation éternelle du chrétien, qu'on en lit dans 2 Pierre. Il n'est pas en train de parler d'une création restaurée, un paradis terrestre avec Jésus qui sera présent. Il est en train de parler que le monde à venir, c'est le monde messianique accompli en Christ Jésus. Pour cet écrivain, il dit qu'il y a le temps passé où Dieu a parlé avec les hommes à travers les prophètes. Ça, c'est au chapitre 1, les versets 1 à 4. Mais maintenant, Dieu parle à travers son Fils. C'est-à-dire, on est passé de l'ombre des choses à la réalité des choses. On a passé de la loi de l'Ancien Testament à l'accomplissement de cela en Christ Jésus. Qu'on est passé de la condamnation à la grâce en Christ Jésus. Et ceci que nous remarquons, que Jésus est celui auquel le monde à venir, c'est-à-dire maintenant, est soumis et règne au-dessus de toutes choses. Et comme vous avez très bien mentionné au chapitre 2, le verset 7, il dit « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Le verset 8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. » Vous voyez cela? Il n'a rien, il dit ici, laissé, il n'a rien laissé qui reste insoumis. Le verset 9 dit, « Nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur. » Et puis le verset 14 dit qu'il a fait cela afin d'écraser Satan et d'éliminer la crainte de la mort. Bon, comment? À travers sa propre tentation, à travers sa propre souffrance, à travers sa propre mort sur la croix, il a goûté la mort pour tous, il dit. Mais après, il est ressuscité. Après, il monte au ciel. Et c'est grâce à Jésus et à son obéissance que la mort devienne un accès pour nous, une porte qui mène au Christ. Vous savez, avant de connaître Jésus, avant de savoir qu'il y avait la résurrection, les hommes vivaient sur l'esclavage de la crainte de la mort. Vous lisez les psaumes. Les psaumes ne disent pas « Oh, heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur ». Non. Les psaumes ne le disent pas. L'Apocalypse le dit. Bon, pourquoi? Quelle est la différence? Parce que les psalmistes croyaient « Quand on meurt, on disparaît. On devient la poussière, on passe dans les ténèbres ». Même David a écrit, on ne peut pas louer le Seigneur dans le lieu des morts. Les morts ne peuvent pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Choisir entre la mort et la vie, je préfère la mort pour aller être avec le Christ. Mais j'ai un ministère ici, un service à rendre, et donc je... Bon, qu'est-ce qui a changé les choses? Bon, c'est la résurrection de Jésus. Jésus révèle que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Et donc, quand nous regardons la mort, même si nous craignons la mort, qui aime la mort? Personne. C'est notre ennemi quand même. Mais quand nous voyons la mort, nous savons que c'est une porte. Nous savons que c'est un accès. Nous savons que ce n'est pas le dernier mot qu'il y a la résurrection. Et donc, il dit, et il délivre les gens qui ont crainte de la mort et qui sont dans l'esclavage. Il vient en aide. Et notons bien, il dit, c'est pas les anges, aux anges qu'il vient en aide, c'est à nous qu'il vient en aide. Jésus n'est pas mort pour les anges, il est mort pour nous. Et tout cela est... Alors, notons bien, trois choses que nous voyons. Okay? Nous voyons incarnation. Nous voyons son humiliation. Et puis, nous voyons la dernière chose, c'est sa glorification. Mais quel est le problème? Quel est le problème? Vous avez vu le chapitre 2, le verset 8? Il dit qu'il est au-dessus de toutes choses. Tout est soumis à lui, mais regardez ce qu'il dit. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne le voyons pas. C'est pour cela que le premier credo des chrétiens, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Credo veut dire « je crois ». Et donc, c'est une question de foi. On regarde un monde, et ces chrétiens regardaient le monde, et ils voyaient qu'ils étaient tentés, ils souffraient, ils étaient persécutés, et leur question c'était « mais je croyais que Jésus régnait au-dessus de toutes choses ». Et la réponse est « oui, il le fait ». Il le fait. Cependant, ce n'est pas encore que nous le voyons. Mais je vous promets, on le verra un jour. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, par la suite, il faut savoir que nous avons un Sauveur qui est merveilleux. Et il nous adopte dans sa famille. Vous avez vu cela? Il dit que Jésus est venu en sang et en chair. Nous, nous sommes en sang et en chair. Donc, nous sommes liés à lui. Il a goûté la mort. Bon, pour tous, il dit, il a goûté la mort pour nous, pour pouvoir donner la garantie de la résurrection. Il a été tenté comme nous. Jésus entre dans ce monde pour montrer sa solidarité avec nous. Et il sait tout ce que vous vivez. Dans le but de salut, dans l'œuvre du salut, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, il dit, sont un. C'est-à-dire, le but est le même. Il vient pour sanctifier, nous sommes sanctifiés, et donc nous sommes unis avec lui. Nous sommes tous dans le même plan. Et puis, il dit que nous avons une relation fraternelle. Cela fait que nous sommes membres d'une même famille, donc frères et sœurs du Christ. Et il fait cela pour la famille d'Abraham. Alors, la famille d'Abraham, d'abord, est pour les Juifs qui ont accepté le Christ, Jésus, comme le Messie. Donc, ils ont dit, et donc, les douze apôtres, les 3000 le jour de Pentecôte, les 5000 quelques jours plus tard, tous en Judée qui ont accepté l'Évangile, ils sont à ce moment-là les vrais enfants d'Abraham parce qu'ils ont le sang d'Abraham dans les veines et ils ont la foi d'Abraham dans le Christ. Okay? C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand la bonne nouvelle est prêchée ailleurs, les païens ou les non-juifs sont intégrés dans ce peuple. Et donc, Paul dit avec fierté, en écrivant aux chrétiens à Rome, il dit que maintenant, vous êtes donc de la famille, de la descendance d'Abraham. Pourquoi? Non parce qu'ils avaient du sang juif dans les veines, mais parce qu'ils avaient la foi d'Abraham dans le cœur, qu'ils mettaient leur foi dans un Messie juif et ils comptaient sur lui. Et c'est ceci qu'il dit qui vient en nous, à nous, comme cela. Et puis, vous remarquez, il dit qu'il donne le salut. Quelqu'un nous a donné ce mot qui est ici, c'est « il est l'auteur du salut » au verset 10. Et ce mot « auteur du salut », est-ce que vous avez un autre mot dans votre texte? Peut-être vous avez le mot « pionnier ». Okay. Est-ce que d'autres ont le mot « dirigeant » explorateur. Vous avez un autre mot au verset 10 pour l'auteur de leur salut? Je ne vois pas, ce n'est pas le cas. OK. Alors, ce que j'aimerais juste... Vous avez un autre mot? Alors, ce qui est intéressant, que ce mot qui est là pour l'auteur de salut veut dire celui qui est le pionnier, le dirigeant. Ça peut être comme un Moïse ou comme un Aaron qui menait le peuple vers la terre promise. Et ce qui dit ici que Jésus trace le chemin à travers la mort et la résurrection pour nous guider et pour ouvrir le chemin. Il est l'explorateur qui nous dit ce qui nous attend. Il montre le chemin et nous le suivons. Il sauve ceux qui sont paralysés par la peur de la mort et qui sont serviles aussi à cette mort. Et nous devenons donc les descendants d'Abraham à travers cette foi. Et donc, il finit en disant au verset 17 que nous avons un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. C'est un souverain sacrificateur qui nous pardonne dans les cieux. Il est humain, il a souffert pour nous, il a été tenté pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous montrer le chemin. Il est parfait. Et les chrétiens qui mettent leur foi en lui sont solidaires avec lui et unis à lui. Et donc, je finis avec ces trois choses qui sont importantes. Première chose que nous voyons, c'est un texte à méditer. C'est l'écrivain a dû passer des heures et des heures et des jours et peut-être une vie à réfléchir sur Jésus pour écrire ces choses, inspirées de l'Esprit de Dieu. De voir toute cette gloire de Jésus, de voir son humiliation, pour voir son incarnation, pour voir sa glorification. Et donc, c'est un texte à méditer. Et la deuxième chose, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas les grands de ce monde, ce n'est pas Satan, c'est Jésus qui règne maintenant. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois et il règne maintenant. Et la foi accepte cela. La foi ne dit pas « Oh, il faut attendre ». Non, la foi dit « Il règne maintenant », même si nous ne le voyons pas. Et finalement, ces versets nous invitent à vivre avec confiance. Nous pouvons prier Dieu en Christ Jésus, nous pouvons compter sur son œuvre et nous pouvons compter aussi que Dieu en Christ Jésus, prépare notre présent et notre avenir. Il est celui qui règne au-dessus de toutes choses. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.